Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous les chips.
Vous aviez l'âge de, aujourd'hui, quand vous avez appris que la voix française de Morgan Freeman était un homme blanc. Vous le saviez, vous?
Ah non.
Bah, c'est évident. Les voix françaises, excuse-moi, on a déjà fait un
épisode. Lucien Jean-Baptiste, il est Al, ok. C'est un monsieur du nom de Benoît Alman, voilà, il est blanc, et moi, mon monde s'est écroulé quand je l'ai appris que c'était lui.
Welcome to France.
Bref.
Bon, moi, ça me va, hein.
Mais toi, t'es trop comme
toi,
ça.
T'es un pendu, toi.
Vas-y, là. On va en parler aujourd'hui, justement. On va régler ton compte.
J'ai déjà tous dénoncé, donc.
Détendez-vous, vous écoutez le chip, ou peut-être que vous regardez le chip, puisque on le rappelle maintenant, notre podcast, notre modeste émission est disponible également sur YouTube et tous les endroits où vous pouvez regarder des choses avec vos yeux, hein, pouvoir faire des mini-rocks et des dabs à l'image et vous en faire profiter. Donc cliquez, enjaillez-vous. Je m'appelle François Oulac et je suis accompagné comme d'habitude des suspects habituels, Mélanie Monga.
Bonjour.
Et Kevy Donna.
Hello, hello.
Toujours les mêmes, Kevy. What's up avec ta casquette?
La casquette, c'est-à-dire que les contours sont pas faits, donc toujours pas faits.
Est-ce que ton dégradé s'est dégradé?
Non, mais shout out à Jay Barber, mon
celui. Mais qui t'as pas appris pendant le confinement à le faire toi-même?
Non, c'est impossible.
Mais il y a des tutos YouTube, je suis sûr.
Non, j'y crois pas.
Jay's Barbershop, plus qu'une coupe,
une identité.
Cette semaine, on va parler d'un film iconique qui a valu à notre pote Daniel Kaluuya. Vous vous souvenez, Get Out, c'est le mec qui était coincé dans le
canapé.
Fauteuil, qui a valu à Daniel Kaluuya un Oscar, c'est pas rien. Judas and the Black Messiah, Judas et le Messie noir, qui raconte la vie et surtout la mort de Fred Hampton, l'un des leaders historiques du parti politique Black Panther aux États-Unis dans les années 70. Il y aura du sang, il y aura des larmes, mais surtout il y aura beaucoup, beaucoup de politique quand même, il faut le dire. Kevy, je crois que tu as 2-3 choses à nous dire à propos de ce film.
Ouais, j'ai plein de choses à vous dire, à quel point il y a un côté pertinent sur le point de vue historique, à quel point c'est aussi pertinent par rapport à des débats qu'on pourrait avoir sur des débats politiques aux États-Unis, en France, en 2021. Mais ouais, effectivement, avant de parler de tout ça, de quoi parle le film? Tu l'as un peu évoqué, c'est l'histoire donc de Fred Hampton, le leader du parti des Black Panthers de la section de Chicago. Et le tout est vu, on va dire, du point de vue de William O'Neill, un petit malfrat afro-américain qui est piégé par le FBI et qui va devenir un informateur. C'est une histoire complexe, c'est une histoire douloureuse et qui méritait d'être racontée depuis longtemps. La famille de Fred Hampton, sa compagne, n'était pas très chaud en fait pour raconter cette histoire, ne faisait pas trop confiance au cinéma, à l'industrie, etc. Et en fait, ce beau projet, c'est avant tout l'initiative des frères Lucas, des Lucas Brothers, c'est deux jumeaux afro-américains qui sont des comédiens, qui viennent du New Jersey, d'une famille, d'un environnement assez pauvre, famille monoparentale, père en prison, mais extrêmement smart, ils ont fait des études.
Ils sont très très politisés. Hein,
très politisés.
Je les suis sur Instagram.
Mais tu les suivais, tu m'as dit que tu les suis plus parce que justement... c'est trop politique, tu vois.
C'est trop politique pour toi.
Les Lucas Brothers.
C'est pas ce que je recherche sur Instagram. Voilà.
Sur Instagram,
tu recherches des hucs, quoi.
Il est plus visuel. Il est plus visuel.
Pas que ça, ok.
Mais notamment ça. Et donc les Lucas Brothers, ils parlent plus politique effectivement que qu'ils ne montrent leurs fesses. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que moi je les ai connus par l'humour. Et souvent on leur dit mais vous avez raconté l'histoire de Fred Hampton, c'est super tragique, etc. Et vous arrivez de la comédie. Il faut comprendre quelle comédie ils faisaient. C'était très drôle, mais ça parlait avant tout de la condition des Afro-Américains, et en particulier un sujet très précis, c'est la drogue. Tu vois, ce qu'on appelle War on Drugs. Donc, allez voir leur stand-up sur Netflix de 2016, qui s'appelle On Drugs, et qui est très drôle. Mais en fait, eux, ils ont, donc, comme je vous disais, porté le projet depuis quasiment 10 ans. Ils ont découvert en fait, qui était Fred Hampton à la fac en 2004. Et depuis, c'est devenu une obsession. Et ils ont écrit, ils se sont battus pour pouvoir... mener le film à bien. Et c'est une réussite franche de mon côté, de mon point de vue. J'ai été plutôt emballé par le film que j'ai vu deux fois. Je trouve que le timing, la première chose dont on va parler pour moi, c'est le timing du film. C'est une question hyper importante et qui ouvre le film, en fait, c'est la question de la police. On est dans un contexte du procès de Derek Chauvin, la mort de Shante Wright, c'est quelque chose qui...
Il y a Biden aussi qui a dit devant le Congrès, si je ne dis pas de bêtises, qui a dit que, le suprémacisme blanc était une forme de terroriste et de menace, domestic threat comme ils disent,
ouais,
menace sur le territoire national. Quoi.
Mais on n'abolit pas la police.
Ouais. Ça arrive après, Mélanie. Tu commences quasiment par la fin. Attends.
Mélanie, c'est donc.
mais en vrai, moi, il y a une des scènes d'ouverture. La scène d'ouverture m'a marqué. C'est on voit donc William O'Neill, malfrat, essayer en fait d'arnaquer des Noirs américains en se faisant passer pour un agent du FBI. Et puis finalement, ça ne se passe pas exactement comme il veut. Il a arrêté par la police. Et lorsqu'on lui dit, mais vous allez braquer des gens sans arme à feu, mais juste avec un badge de police, pourquoi un badge de police? Moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est sa réponse, c'est de dire, parfois, un badge, ça nous fait plus peur qu'une arme à feu. Et donc, tout ce truc de peut-on faire confiance à la police et de comment il va se retrouver à travailler pour la police. Pour remettre les choses dans le contexte, il faut comprendre qu'à la fin des années 60, il y a le FBI, évidemment, que tout le monde connaît. On n'a plus besoin d'établir le lien entre la télévision, les films américains et puis de la propagande souvent pour le FBI ou pour la CIA. Mais donc, on a le patron du FBI, J. Edgar Hoover, qui tient un discours à des agents donc de son institution et qui leur explique que les Black Panthers sont la menace principale pour la sécurité intérieure des États-Unis. C'est la principale menace, et avec un discours évidemment hyper manichéen qui va être pas mal répété en fait, notamment dans le film, mais pas seulement, en faisant une espèce d'équivalence entre le Ku Klux Klan d'un côté et les Black Panthers, en disant que c'est la même chose.
Alors je crois savoir, j'ai pas vu le film avec DiCaprio, je suis pas très fort en histoire, mais il me semblait que c'était pas un mec très très sympa, J. Edgar Hoover. Malgré tout, j'ai trouvé que dans le film, il était dépeint, je sais pas si vous voulez en parler peut-être plus tard, je sais pas
non,
si
non,
je
non,
marche
cool,
sur tes
cool,
pieds,
c'est... Non,
mais j'ai trouvé qu'il était pas dépeint de manière très...
Énorme ordure.
Ouais, pas très nuancé, c'est vraiment Dark Vador, quoi.
Ouais. Non, franchement, dans le film, et puis on en parlera de la scène quand il parle au flic. Alors,
de sa fille, ouais.
Ouais, quand il parle de sa fille et tout, cette scène, elle m'a glacé le sang, quoi, parce que c'est vraiment... Je pense que là, on touche au cœur du suprémacisme blanc qui dit, ok, on sait qu'on est là et qu'on a une posture, une position de domination, on sait qu'on l'a pas acquise très légitimement, mais est-ce que tu as envie que quelqu'un d'autre prenne notre place? Et la réponse est non. Donc,
il n'est pas très woke. Ouais, je pense qu'il n'a pas lu Bell Hooks.
Non, mais c'est vraiment c'est le cœur du suprémacisme.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que ça se place donc, à la fin des années 60, comme on l'a dit, et ça arrive après les années 50, chronologiquement, qui est une époque de paranoïa, même d'hystérie aux États-Unis.
Et puis c'est l'époque des droits civiques aussi.
Ouais, non, mais avant la question des droits civiques, même la peur, la guerre froide, le macartisme. C'est exactement la chasse aux sorcières. Donc c'est très 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 fort quand le patron du FBI dit que la menace principale des États-Unis,
c'est pas les communistes, c'est pas les Chinois, c'est pas les Russes,
c'est les Afro-Américains. Et c'est pas tellement les Afro-Américains de façon absolue, c'est le parti Black Panther.
Mais tu vois, typiquement ce genre de phrase qui dit, donc c'est au début du film en effet, Hoover qui dit ça. J'aimerais savoir si c'est une phrase historique. Je sais pas si vous avez la réponse.
C'est une phrase historique.
D'accord, ok, parce que si ça avait pas été le cas, j'aurais encore dit, ah ouais, mais là vraiment, vous voulez vraiment faire Dark Vador, quoi.
Je pense que ce qu'ils ont imaginé, c'est les dialogues qu'ils ont, mais
dans les bureaux,
mais les discours officiels,
mais ce discours-là, c'est un vrai.
C'est un discours, c'est un vrai.
D'accord.
C'est un FVP.
Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est que justement, ce qu'il dit, c'est pas les Noirs sont une menace, c'est le parti des Black Panthers qui est une menace. Et on va arriver un petit peu plus tard, parce que c'est pas juste une question de race, de suprémacisme blanc, de suprémacisme noir. Il y a des questions de lutte des classes, de coalition, de convergence des luttes qui font que le parti des Black Panthers.
Et puis le parti des Black Panthers, c'était quand même l'autodétermination par le self-défense, en fait, les armes et tout. Donc tu peux comprendre que eux, ça les faisait pisser leur.
Bah, tu mets des Black Panthers aujourd'hui en France.
Déjà qu'on fait rien, on fait juste des podcasts.
Ils sont dissous plus vite que Génération Identitaire. Hein,
petit point privé, est-ce que vous vous souvenez, l'année dernière, on a été tous les trois à la manifestation du mois de juin.
Ouais.
Et ensuite, vers le tribunal de justice, là. Et ouais. Ensuite, on est allé se poser dans un bar que je ne citerai pas. Et donc, on est en terrasse. C'est juste au moment du premier déconfinement.
Ouais.
Et donc, on avait cette opposition d'un côté avec des jeunes noirs de France
qui vont manifester, etc.
Et puis en face, la classe moyenne, voire la bourgeoisie, assise en terrasse, etc. Et c'est justement, vrai. Moi, un truc qui m'avait vénère, c'est on se pose à la terrasse de ce bar qu'on connaît. Et le type nous voit avec des pancartes. Hey, ça va, les Black Panthers, là? Et en fait, on a tous fait poker face, pas du tout.
C'est vrai que c'est un peu devenu une vanne de dire ça. Moi, j'ai déjà entendu ça aussi, pas forcément de manière malveillante, mais t'es, par exemple, je vais inviter des propos politiques.
Le FC Wakanda, les trucs.
Ouais, c'est ça, en fait. Je vais inviter des propos politiques, on va dire, dans une discussion entre amis, on va dire, plus légère. Et direct, j'ai un pote qui va me faire « Eh, c'est bon, Black Panther, calme-toi deux minutes. » C'est vrai que c'est devenu un peu une punchline, quoi.
Mais c'est... Moi, je trouve pas ça drôle dans un contexte français où on pense assez mal la race et où on fait « Ah, non, mais des deux côtés, c'est dangereux, machin, etc. » Juste appeler Black Panther en voulant m'insulter alors que les Black Panthers, c'est plus deep et plus complexe que ça, ça m'agace un peu, tu vois.
Mais... Je peux comprendre,
voilà.
Te laisse pas faire, Kevin, t'as raison.
Vous étiez avec moi.
Mais on a rien dit. Hein.
On a bu nos bières,
on a regardé comme ça et on a fait… Okay.
Bref, mais en fait, ce truc de diabolisation du Black Panther Party, ça va justifier à peu près tous les extrêmes. Donc, l'histoire de la mort de Fred Hampton, on va en parler un petit peu plus tard. Mais déjà, l'idée de devoir les infiltrer à tout prix, infiltrer le parti de Black Panther comme on va infiltrer le Ku Klux Klan. François, tu avais des choses à dire, des parallèles à faire avec le film Black Klansman de Spike Lee. Tu en avais parlé à l'époque dans le Chip et je sais que tu n'es pas un grand fan.
Ouais. J'avais pas beaucoup aimé. J'avais décerné un trash à Black Klansman, à Spike Lee. Voilà, à Spike Lee en général, la personne. Non, je déconne. Non, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est que c'est le parallèle avec Black Klansman, je veux dire, c'est qu'évidemment, on a deux histoires de noirs, d'afro-américains, je veux dire, infiltrés, après dans la même époque historique, dans des organisations vues comme potentiellement dangereuses. Dans les deux cas, on a des personnages aussi qui, du coup, travaillent pour le fameux COINTELPRO, le Counter Intelligence Programme, qui est le fameux programme mis en place par Edgar Hoover.
Pour aller assassiner.
Pour aller, voilà, en gros, éliminer toutes les menaces intérieures qui ne l'arrangent pas. Aux États-Unis. D'un côté, on a Ron Stallworth, du coup, qui infiltre le Ku Klux Klan pour le compte de la police du Colorado et donc du COINTELPRO. Et de l'autre côté, du coup, dans Judas and the Black Messiah, on a Bill O'Neill qui infiltre les Black Panthers pour le compte du FBI. Et alors déjà, je trouvais que le point de vue de l'infiltré, c'était quelque chose de très sympa. Dans les deux films, je trouve ça super. C'est toujours plus cool, en fait, d'être du côté de la Poucave, parce que là, déjà la Poucave, surtout dans le cas de
enfin, les gens, ils vont nous casser les dents dans la rue là.
Non, mais regarde Judas and the Black Messiah, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir le point de vue de Bill O'Neill, qui est une petite ordure que t'as pas envie de voir réussir, mais qu'en même temps tu stresses pour lui, parce que si se fait choper par les Black Panthers, tu vois, tu sais que ça va très mal se passer.
Ça va chauffer. Mais...
Ouais, c'est ça. Comme c'est le héros du film, forcément, tu t'identifies à lui. C'est plus intéressant que si ça avait été le film sur Fred Hampton, la grande figure presque hagiographique, avec à côté le méchant Bill O'Neill. Donc le point de vue de Lashnis, moi je trouve ça super intéressant, ça donne toujours un truc très palpitant et humanisant au héros de film. Seulement là où j'ai trouvé que Judas était bien supérieur, on va dire, enfin en tout cas il m'arrangeait plus, on va dire, ce film à Black Klansman, c'est sur la vision politique justement de toutes ces histoires de COINTELPRO, etc. Il y a une scène de Black Klansman qui m'a vraiment complètement trigger, je crois même j'en avais parlé avec vous justement lorsqu'on a fait ce chip là, c'est cette scène en fait où il y a un écran splitté en deux, vous savez, il y a un écran séparé en deux, et d'un côté vous avez les Ku Klux Klan avec le point levé qui dit white power, white power, white power, et de l'autre côté vous avez les Black Panthers qui ont le point levé eux aussi et qui disent black power, black power.
Parce que c'est la même chose.
Et c'est ça qui m'avait énervé en fait, c'est comme si Spike Lee renvoyait dos à dos ces deux organisations comme si c'était
les objectifs étaient les mêmes.
Voilà, comme si c'était deux faces d'une même pièce, deux revers d'une même médaille, alors que c'est faux. On a d'un côté le Ku Klux Klan, qui est une organisation qui existe encore aujourd'hui légalement aux États-Unis et qui a pu, en quasi-impunité, vous voyez ce que je veux dire, brûler des croix, tuer des gens, etc.
Et puis qui a eu pignon sur rue au début du XXe siècle.
Et qui avait pignon sur rue, et les Black Panthers qui sont là pour.
Qui sont détruits.
Qui était voilà une organisation socialiste qui venait à la défense d'une minorité oppressée, et c'est pour ça que j'ai préféré Judas à Black Klansman, et je m'arrêterai là. C'est que Judas au moins montre que la suprématie blanche, elle n'est pas juste le fait de quelques dangereux tarés avec des cagoules blanches, et surtout, la plus dangereuse forme de cette suprématie, elle vient de l'État lui-même, en fait. Elle vient de ce fameux COINTELPRO, qui, du coup, dans Black Klansman, il est posé en héros, puisque Ron Stallworth, il est là pour infiltrer les méchants encagoulés pour le compte du COINTELPRO. Et sauver les activistes noirs, c'est quand même super ironique. Il doit empêcher un attentat contre les Black Panthers, alors que dans la réalité, le COINTELPRO, ils étaient surtout là pour taper sur les Black Panthers. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans Judas, on voit bien qu'évidemment c'est le COINTELPRO les salauds. Et d'ailleurs,
Parler des méthodes employées aussi, tu vois, les trucs de diffamation, de propagande,
évidemment,
de contre-propagande.
Ouais, et puis ils le montrent pas dans le film, mais sur ce qu'ils ont fait aussi à Martin Luther King, où lui envoyer des lettres pour le pousser à se suicider.
Voilà. Si on commence à ouvrir, vous voyez ce que je veux dire.
ce qu'ils ont fait, ce
chapitre-là, j'imagine qu'on trouvera beaucoup de choses. Et il y a une toute petite scène que j'ai bien aimée dans Judas and the Black Messiah, c'est l'agent du FBI, donc qui est joué par Maeve Damon. Enfin, par Jesse Plemons, mais ouais, qu'on s'en nomme tous Maeve Damon depuis qu'il a, parce qu'il ressemble à Matt Damon.
Mon mec l'appelle Ugly Matt Damon.
Non, c'est Maeve Damon, c'est un meilleur jeu de mots en fait, parce qu'il jouait dans Breaking Bad, et il jouait un dealer de Crystal Meth, et comme il ressemble beaucoup à Matt Damon, c'était Maeve Damon, voilà. Ouais. Et donc Maeve Damon, il joue l'agent du FBI qui utilise du coup la Key Stanfield pour infiltrer les Black Panthers. Mmh. Et donc ce personnage-là, clairement, pour nous, le spectateur, c'est un méchant. Okay, c'est un salaud, c'est un méchant. Et c'est dans la bouche de ce personnage-là qu'on entend cette phrase dans le film où il dit « Mais mec, en parlant justement à la Key Stanfield, il dit « Mais mec, tu verras, Ku Klux Klan et Black Panther, c'est les mêmes. » Et donc, voilà, direct, on condamne cette position-là. C'est ce que j'aurais aimé que Spike Lee fasse. Ouais. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment rien pour ça. Même
encore
si
un trash à Spike Lee.
Ouais, de fou, voilà. Et puis, non, mais il est un peu manichéen, je trouve, parfois, Judas and Black Messiah. Mais au moins, il est on point politiquement parlant, quoi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, je suis d'accord. Mais Mélanie, on va parler de deux, trois trucs. Mais juste avant ça, je voulais... en fait... À mon avis, et ce qui est intéressant, c'est justement ce que tu disais, de renvoyer les gens, les groupes dos à dos, et de justifier ou de plutôt de diaboliser son adversaire pour pouvoir justifier tout type de dérive, de violence extrême. Et en fait, le mot messie noir, Black Messiah, c'est aussi Hoover qui le prononce, avec cette espèce de crainte d'avoir une figure presque christique qui soit capable non seulement de réunir les noirs. On est dans un contexte, il faut le dire, où Martin Luther King a été assassiné en 68, donc un an avant, et Malcolm X est assassiné en 65, donc 4 ans avant. Il y a eu d'autres trucs, il y a eu les frères Kennedy, il y a eu Medgar, plein de gens qui sont morts violemment. Donc la peur de quelqu'un qui puisse prendre la relève et puis aussi qui puisse fédérer, avec cette idée que Fred Hampton, c'est pas juste, et le Black Party, le Black Panther Party en général, c'est pas juste dire aux noirs que le monde est méchant et qu'il faut se soulever, c'est aussi être à certains moments capable d'aller parler à d'autres groupes et de créer des coalitions. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué où les Black Panthers vont rencontrer les Young Patriots à Chicago, donc qui sont une association de blancs venus d'États sudistes qui sont pauvres et qui revendiquent le drapeau confédéré. Et Fred Hampton et les Black Panthers vont les voir, et donc c'est un peu tendu, mais au lieu de parler du drapeau confédéré et de toutes ces choses-là, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont un ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est... On peut l'appeler l'État, on peut l'appeler le capitalisme, on peut l'appeler...
La classe avant la race, ça y est, ils ont gagné.
Et ça, en fait, c'est beaucoup plus dangereux que n'importe quel discours de l'homme blanc est un diable, machin, etc. On veut pas avoir de con. C'est aller voir... des blancs et essayer de mettre de côté certaines différences pour parler politique, pas pour parler de bons sentiments, on est tous frères, etc., mais pour dire l'analogie que Fred Hampton y prend, c'est celle de l'incendie, en disant quand il y a un incendie chez toi, ta priorité, ta religion, ta culture, ta politique, c'est de l'eau et une porte, enfin une évacuation, une issue
de sortie,
une issue de secours, excusez-moi. Et cette crainte, en fait, elle n'est pas née avec Hoover, elle n'est pas née avec les Black Panthers, c'est la peur aussi d'un Spartacus noir. Cette idée, depuis le début de l'esclavage, que quelqu'un qui serait capable à la fois de parler aux petits blancs, parce qu'il n'y a pas que des blancs riches, évidemment, même au temps de l'esclavage, et aux noirs de la plantation, de travailler ensemble, de se battre ensemble, de lutter ensemble, ben, en fait, ils peuvent renverser le maître, ils peuvent renverser le système. Et cette analogie, en fait, Fred Hampton, il l'utilise aussi dans sa rhétorique, il s'est montré dans le film. etc. En fait, ce truc du Spartacus noir, ça vient d'un livre que je ne peux que vous recommander. Black Spartacus, c'est le nom en anglais, mais le nom en français, c'est Toussaint l'ouverture. C'est un bouquin de Soudi Raza Racing et qui reprend aussi un petit peu ces luttes qu'on a eues, pas seulement aux États-Unis, mais dans le Saint-Domingue de l'époque révolutionnaire, etc., avec des figures qui peuvent renverser l'ordre établi, pas seulement en mettant les Noirs à la place du Blanc, mais aussi en ralliant des Noirs, des Métis, etc.
Excuse-moi, Soudi Raza Racing, c'est pas un mec que tu as interviewé un moment pour
Exactement, j'avais fait un long entretien avec lui qui est toujours disponible pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, où justement on parle du livre, du contexte des années 1790, mais je m'écarte, excusez-moi. Je reviens à la question du Black Panther Party, du film
Black
de
Fred,
du Black Messiah. Le Black Messiah, c'est de une figure religieuse mythique. Mélanie, tu voulais dire des trucs par rapport à ça, par rapport à Judas et tout.
Ouais, en fait, moi, c'est cette figure du Messiah, du Messie, qui m'interroge, parce que je me dis qu'en fait, on la retrouve partout, en fait, dans tous les partis politiques. Et je trouvais ça intéressant dans le film, quand on voit les discours que Fred Hampton fait. Il y a un espèce d'effet psychologique, un peu hypnotique, en fait. Il hypnotise les foules quand il leur fait répéter des « I am a revolutionary ». Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté qui donne, en fait, une raison d'être aux gens, en fait, de se dire « Ouais, là, je peux trouver quelque chose où ma vie a un sens en suivant ce mec ». Et je trouve que ça veut... Enfin, moi, c'est une figure que je vois beaucoup et... Je trouve que ça répond à un besoin, en fait, qui est presque primal, le besoin de suivre une personne qui est supérieure, différente de nous, qui sait ce qu'il faut faire, en fait, et qui peut nous sauver pour nous mener vers la lumière et vers le paradis. Et c'est le fondement de toutes les grandes religions monothéistes, déjà. Et je trouve que dans tous les partis politiques, que ce soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, on a ce rêve d'un homme spécial, un homme fort, en fait.
Un homme providentiel.
Qui arrive et qui nous sauve, en fait. Et tous les grands dictateurs, tous les Staline, tous les Hitler, tout ça, du côté extrême droite, mais on retrouve aussi ces mêmes figures dans l'extrême gauche. Et même, je dis extrême, mais en fait, c'est...
Au centre, hein.
Partout. Il y a toujours un candidat, une
c'est
personne.
C'est Macron pour sauver la démocratie. Hein.
Ben voilà.
À la base, la gauche, ils avaient un fonctionnement un peu plus collectif, quand même.
Ça m'interroge. Ouais. C'est qu'en fait, à droite, tu te dis, c'est un truc autoritaire, on suit le chef et on ferme sa gueule. Tu vois. Mais à gauche, surtout dans un parti qui est socialiste et qui est communiste, même dans ces partis révolutionnaires, il y a quand même ce rêve d'une grande figure, en fait, qu'on pourrait suivre et qui nous guide. Je pense notamment à Che Guevara. Enfin voilà, il y a vraiment cette figure du Messie un peu partout. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce culte de la personnalité là, il est quasiment tout le temps. C'est même pas quasiment, il est tout le temps relié aux hommes. Oui. C'est-à-dire que c'est tout le temps un homme qu'on veut suivre. C'est tout le temps une figure masculine qui est forte et qui représente en fait le rêve de quelqu'un qui vient nous sauver politiquement, économiquement, qui est et c'est très très fort encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on a et tout, on se dit souvent, mais pourquoi en France, on n'a pas de figure noire, forte, politique, qui pourrait changer les choses, nous guider ou aider à faire rentrer des débats dans la société. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment interroger ça parce que c'est moi ça. Je me dis, waouh, tu vois, même le film dit Black Messiah et tout. Et je me dis, mais pourquoi, tu vois, ce côté, quand on est socialiste et qu'on se dit on est révolutionnaire, on veut faire changer le monde et tout, et ben en fait, c'est un mouvement global. Tu vois, c'est comme tu dis, François, c'est un truc où c'est le groupe, en fait. Et pourquoi, même dans cette optique-là, on se demande où est le Messie ?
J'ai deux trucs. Il y a, d'un côté, ce que tu dis, tu vois, Black Lives Matter, justement, c'est pas des hommes. Ce sont trois femmes qui ont voulu monter ça avec le sentiment justement de ne pas vouloir faire le chef de Black Lives Matter parce que justement, si tu fais de la merde, ce qui est le cas pour Black Lives Matter, il y a des trucs en ce moment qui sont en train de sortir.
Des pubs et tout. Ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de ne pas être une organisation avec une figure, un visage, une tête super identifiée, ça protège aussi parfois l'organisation parce qu'il ne suffit pas de couper la tête.
C'est ça, et ça, on pourra en parler un peu plus tard, mais c'est que du coup, ça justifie en fait quand le FBI se dit comment tuer ce mouvement dans l'œuf,
coupant la tête.
Tu coupes la tête du mec, en fait. Et puis c'est tout. Et puis c'est ce qui se passe dans le film, en fait. À partir du moment où il est mort, le chapter des Black Panthers dans l'Illinois est mort aussi, en fait, avec lui. Et du coup, je pense que c'est un vrai truc sur lequel il faut qu'on s'interroge. C'est si on a envie d'un changement politique et tout, en fait, on cherche la puissance dans une figure qui est quasi mystique, comme tu dis, alors qu'en fait, la puissance, elle est dans le groupe, en fait, elle est en nous.
Alors, il y a, justement, je pense que je vais à peu près dans le même sens que toi, c'est ce côté de personnes qu'on va suivre. Donc, tu partais du religieux pour arriver au politique, mais je pense que même si tu restes sur le religieux, des figures comme celle de Jésus, donc, qui est bon, ou de Judas, qui est méchant, dans l'histoire noire, on en a, mais chaque île de la Caraïbe, en fait. On a chaque, je pense, chaque État des États-Unis a eu à un moment un homme ou une femme, et on va plutôt se souvenir des hommes aussi, qui, à un moment, essayaient d'être ce Messie noir ou ce Spartacus noir et de prendre la tête du truc et de mener la révolution. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, qu'il est surpuissant et qu'il est parfait, mais ça veut peut-être dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le risque, parce que ce n'est pas juste prendre la lumière et machin, c'est aussi prendre des coups.
Mais bien sûr.
Et je pense que cette histoire des révolutions, elle est importante. C'est important de le dire. Et j'ai envie de citer un historien trinidadien qui s'appelle C.L.R. James et qui, dans un texte qui s'appelait The Revolution and the Negro, dans les années 30, parle de résistance, de marronnage, d'insurrection. Et il dit « Ce n'est pas étrange que les Noirs se soient révoltés, mais c'était étrange s'ils ne se révoltaient pas, qu'ils ne se révoltèrent pas, qu'ils ne se révoltaient. » Je la reprends. Je la reprends et je la mets au singulier parce qu'en fait, elle est au singulier en anglais. Et, je voudrais citer donc C.L.R. James, un historien trinidadien qui, dans un texte qui s'appelle The Revolution and the Negro dans les années 30, parle de résistance, de marronnage, d'insurrection. Et en fait, il dit « Ce n'est pas étrange que le noir se soit révolté, mais c'eût été étrange qu'il ne se révolta pas. » Et je pense que on retrouve ça aussi dans Judas and the Black Messiah parce qu'ils sont hyper jeunes. Ils ont, ouais. C'est des adolescents.
Il avait 21 ans, 22 ans quand il est mort.
Ouais. Il meurt en 69, il a 21 ans. Et tu as un peu, je pense aussi, un truc presque inconscient, je dirais pas suicidaire, mais en tout cas vraiment téméraire à affronter de façon aussi
frontale
quoi. la plus grande armée de l'histoire de l'humanité, le FBI, la CIA, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez fou. Mais je pense qu'aussi, ils le font pour les générations d'après, en se disant, on va certainement pas gagner, mais ce sera un message très étrange qu'en regardant la période des années 50-60, il y a eu personne qui, au bout d'un moment, ait pété un câble et voulu faire un truc de folie. Ça aurait été étrange, en fait, que personne ne le fasse.
En vrai. Si vous aviez été dans le film, par exemple, si vous aviez été un habitant de Chicago, noir, etc., à cette époque-là, vous pensez que vous auriez rejoint les Black Panthers ou pas?
Moi, je pense que ça dépend beaucoup de la classe. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la classe.
Je vous dis, voilà, si vous étiez à la place des. Enfin, si vous étiez vraiment dans le creuset social des personnages, vous avez, 18 ans. Voilà, vous êtes de jeunes noirs de Chicago et vous en avez marre de l'oppression, etc. Et évidemment, vous recevez des tracts, etc. Vous êtes dans la cible, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes dans la cible des Panthers et vous propose de les rejoindre. Vous feriez quoi à votre place? Est-ce que vous resteriez neutre? Est-ce que vous seriez une snitch? Vous iriez dedans?
Moi, j'irais, mais après, je veux pas dire que je le regretterai pas, mais j'irais, clairement. Parce que clairement, il y a le côté... Et je pense que quand on pourra parler des femmes aussi, je trouve que c'est pour les femmes, c'était hyper attractif ce côté de self-defense, enfin par les armes.
Vas-y, parle-en. C'est je voulais justement aborder la question.
Non, je pense que en fait.
Comment t'as trouvé que c'était traité dans le film la question justement des femmes?
Pas très bien. Non, déjà le film est centré sur des filles, deux figures masculines. Comme d'habitude, les femmes, elles ont un rôle secondaire de petite amie ou de second rôle en fait, qui est pas hyper lié au dénouement final de l'action.
Le film ne passe pas le test de Bechdel, je pense.
Je pense pas. Alors, on peut citer Deborah Johnson, donc qui est incarnée par Dominique Fishback, qui est la petite amie de Fred Hampton et qui est une membre du Black Panther Party, et Judy Harmon, qui est incarnée par Dominique Thorne et qui est aussi une membre du Black Panther Party, qui sont à peu près les deux seules figures féminines du film qui ont des dialogues, quoi, en gros. Et dans le film, Hampton les appelle les sœurs d'armes. Et il y a une scène, d'ailleurs, où O'Neill essaye de draguer une, et l'autre, il lui dit « Non, non, t'es pas là pour draguer, c'est ta sœur d'armes. Elle a des armes, elle te défend et tout, donc tu la respectes. » Et en fait, c'est assez intéressant, parce que du coup, j'ai fait des recherches, et Huey P. Newton, donc le fondateur des Black Panthers...
Ah oui, ça a mal fini,
a demandé à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes soit l'un des piliers du parti. Donc c'était vraiment dans la création du parti, il a dit, nous, on veut créer un homme et une femme noire nouveaux. Et donc, on veut l'égalité entre les femmes et les hommes dans le parti. Lui-même avait des comportements sexistes et misogynes et problématiques et tout. Et donc, voilà, la théorie et la pratique ne se rejoignaient pas toujours nécessairement.
Il n'allait pas se réinventer.
Oui, mais tu vois, c'est marrant quand même de dire,
c'est
voilà,
pour les autres.
En théorie, on est comme ça. Par contre, en pratique, c'est chaud. Et une autre statistique intéressante que j'ai trouvée, c'est qu'au début des années 70, donc après le prime des Black Panthers, les années 60...
Après les premiers albums, ouais.
Et bah, au début des années 70, les femmes représentaient 2/3 des effectifs du parti. Ouais. Donc c'était un parti très féminisé sur la femme, mais... Toute l'histoire, quand on te parle des Black Panthers, bah en fait, les figures qu'on te montre, c'est des figures masculines.
Mélanie, je vais complètement dans ton sens. Je dirais juste un seul truc en guise, tu vois, pas de bémol, mais même, tu vois, pour nuancer un peu le truc, c'est que l'histoire des Black Panthers, elle n'a pas souvent été racontée par les Black Panthers eux-mêmes.
Oui. Récemment, et donc, ils prennent souvent les figures.
Récemment, il y a un podcast que j'aime beaucoup, un nouveau podcast américain qui s'appelle Throughline, et ils ont fait un épisode sur les Black Panthers. Et tu as une femme qui est prof de Black Studies et qui explique qu'aux États-Unis, monsieur et madame tout le monde, surtout les blancs évidemment, connaissent les Black Panthers par le film Forrest Gump. Et que c'est une vision hyper erronée, tronquée, parcellaire de ce que c'est le militant du Black Panther, parce que c'est forcément un homme agressif qui dit que les blancs sont méchants, que les blancs c'est le diable et qu'il faut prendre les armes pour les renverser. Et ça montre pas que, par exemple, ben oui, les 2/3, comme tu disais, des Black Panthers étaient des femmes. Et c'est quelque chose qu'on voit pas dans les œuvres de fiction, mais qu'on voit vraiment visuellement, quoi, dans les documentaires sur le parti des Black Panthers. Les gens qui ont survécu, qui racontent, etc., ce sont des femmes. Mmh. Les gens qu'on voit en première ligne, ce sont des femmes.
Ouais. Et je vais y venir, mais aussi les gens qui ont fait survivre le parti, en fait, et notamment toutes les œuvres de « on donne à manger aux enfants, on donne des repas gratuits », tout ça, c'était beaucoup les femmes, en fait. Mmh. Et pour reboucler sur ce que tu disais, sur ce qui attire les jeunes femmes, je pense, dans le Black Panther Party, dans une organisation comme celle-là, c'est vraiment le côté de self-defense. Mmh. Et cette autorisation qui est autrement, dans tout le reste de la société, t'as pas le droit d'être violente quand t'es une femme. Mmh. Et là, on t'autorise en fait à te défendre et à être violente et à exprimer en fait ta colère face à des injustices que toi ou ta famille peut vivre, tu vois, au quotidien. Et donc c'est le self-defense comme arme contre la violence d'État, la violence policière. Et ça, c'est un choix féministe. Et du coup, pour le coup, il y a plusieurs documentaires. Enfin, je crois qu'il y en a deux avec des femmes Black Panthers qui expliquent que elles, toutes les femmes dans les Black Panthers, se considéraient comme féministes.
Ouais, et comme c'est The Vanguard of the Revolution, je crois.
Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Exactement, j'avais pas noté le nom. Mais du coup, voilà, il y a quand même des femmes qui ont marqué le parti. Il y a la première femme à ouvrir un chapitre des Black Panthers.
Erika...
Quoi ?
Une antenne locale.
Une antenne locale. Erika Huggins dans le New Haven, mais elle n'était pas, chairman, elle était deputy chairman. Mm. Et donc, c'est elle qui a dit que les femmes Black Panthers se considéraient comme féministes. Et surtout, donc, les femmes ont continué l'œuvre des Black Panthers bien après la fin des années 60. Donc, il y avait le Free Breakfast for School Children Program qui nourrissait qui donnait des petits déjeuners aux enfants qui n'en avaient pas. Et puis, bien sûr, il y a les centres médicaux gratuits pour les personnes qui en avaient besoin. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce que, encore une fois, c'est des métiers du care, comme on dit, hein, où c'est vraiment voilà, nourrir les enfants, soigner les gens, s'en occuper, faire survivre les gens. Mais en fait, c'est ça qui dans sur le long terme, même si voilà, le Black Panther Party n'est plus du tout ce qu'il a été, c'est ça qui fait survivre, en fait.
C'est pas les armes, c'est pas la lutte armée.
Non, c'est pas la lutte armée. Et pourtant, elles étaient là dans la lutte armée, hein, mais c'est le care, en fait. Et donc, Erika Huggins et d'autres femmes du Black Panther Party expliquent que au sein même du parti, où il y avait toute cette théorie égalitaire, elles faisaient face au sexisme de leurs frères d'armes, qui refusaient leur leadership systématiquement, et qui les cantonnaient justement à ces seconds rôles du CAIR. Et du coup, pour aussi redire un peu ce que tu disais, François, quand les forces de police et le FBI ils se sont dit « vas-y, il faut qu'on coupe les têtes du parti », ils n'ont même pas pensé aux femmes. Ils ont tout de suite réfléchi en mode chauvin, sexiste, en disant « les femmes ne comptent pas, les femmes ne sont pas des menaces, on va se concentrer sur les hommes ». Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu tant d'hommes noirs qui ont été ciblés, tués, assassinés. Voilà, ils ne prenaient pas les femmes au sérieux. Et donc, malheureusement, le Black Panther Party n'a pas réalisé ce rêve d'égalité entre femmes et hommes noirs, ce qui aurait pu en fait être un des pivots, hein, je pense, du projet. Mais en fait, les femmes ont constitué la partie stable du, bah, comme tu disais, il y a la lutte armée et puis il y a le truc de comment, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour vivre, quoi.
J'imagine les Black Panthers, tu vois, aujourd'hui, ils arrivent. Du coup, elles arrivent. Et puis elles disent, bon voilà, maintenant on continue notre œuvre et on fait un mouvement vraiment féministe. Je pense qu'elles se seraient heurtées à un problème d'intersectionnalité, tu vois.
Ouais, mais c'est.
J'imagine, tu vois ce que je veux dire, dans une réunion féministe, et j'imagine une autre meuf dire, mais vous, par contre, vous portez des voiles, enfin, comment ça se passe?
Ouais, ouais, et du coup, on peut parler pour finir juste de Deborah Johnson, qui aujourd'hui s'appelle Akua Nejri. Nejri, je sais
Mama
pas si.
À quoi?
Voilà. Quoi? Et qui en fait continue son activisme dans une moindre mesure, notamment avec son fils avec Fred Hampton Junior,
ouais.
Qui a changé son nom, je l'ai appris, qui a changé son nom quand il avait 10 ans.
Ah,
il
okay.
Il s'appelait Alfred.
Mais ils n'étaient pas mariés, les parents, du coup.
Il a changé légalement son nom pour devenir Fred Hampton Junior.
C'est marrant. Moi, il y a un petit truc qui m'a plu aussi, que j'aime bien dans l'idée des Black Panthers et qu'on voit aussi. Dès le début du film, c'est ce côté internationaliste. C'est-à-dire que souvent, le militantisme noir américain est un peu centré sur la question américaine. Et là, dès le début, il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire où Fred Hampton donc, fait un speech et en gros, il dit d'arrêter les clichés. Là, que c'est pas les... Si vous voulez vous inspirer de l'Afrique, vous inspirez pas des dashiki ou du wax ou je sais pas quoi, mais mettez-vous en tenue militaire du Frelimo, donc le Front de Libération du Mozambique. Ils font des références à l'Angola, ils parlent de Cuba. À un moment, ils disent à Fred, tu devrais partir en Algérie.
C'est vraiment l'international. Mais comme Che Guevara, ouais, il faisait en fait. Ouais, Che Guevara, ouais, c'était devenu le visage international à Cuba et il voyageait comme ça. C'est intéressant comme idée. C'était un vrai socialiste. Tu parlais de la scène où il va voir les Young Patriots, donc les espèces de blancs confédérés.
Les technos.
Voilà, qui sont un peu des white trash et qui finalement partagent beaucoup avec les Black Panthers. Et moi, j'étais pareil en fait que toi. Je vois la scène arriver, je vois le gars, il débarque avec ses gars dans cette salle de réunion avec ce grand drapeau confédéré et tous ces blancs white trash, et je me dis mais il va y avoir du grabuge, ça va se clasher sur l'histoire de racisme, et en fait très vite Hampton désamorce la scène en disant mais attendez, en fait on a tous intérêt à être socialistes là dans la pièce, donc venez, on y va.
C'est même plus que ça, c'est que limite les mecs commencent un peu à se riter et Fred Hampton il calme tout le monde en vannant les blancs en leur disant mais vous êtes pauvres en fait, qu'on est venu pour se garer, on a dû se battre pour la place
avec
de parking avec un rat. C'est quoi, vous êtes pauvres quand même les blancs vous aussi là au bout d'un moment, donc avant de parler de machin, de race, de confédérés,
dont
de machin,
pas les noirs,
vous êtes quand même sacrément pauvres.
Ça c'était vraiment ben moi j'étais, tu vois, la façon qu'il avait, tu vois, et que du coup j'imagine le Black Panther Party avait de transcender ces questions là tout en les prenant en compte malgré tout, c'est super intéressant. C'est ce que la gauche devrait être aujourd'hui, en fait.
Eh ben, on arrive à la question de la gauche et à la question d'aujourd'hui, juste pour finir cet épisode sur le Black Panther Party. 2020-2021, de façon un peu amusée, je lis des articles, j'écoute des émissions françaises qui ne savent pas comment parler de ce qui se passe politiquement depuis quelques années aux États-Unis, où en fait, y a une gauche américaine bien plus vivace que ce qu'on aimerait croire en France, en disant, voilà, oui, effectivement, la gauche américaine, pour dire que le sexisme et le racisme, c'est pas bien, ils sont là, mais pour les vraies questions de syndicalisme, de salaire, de répartition des richesses, on les entend jamais. Eh bien, en fait, ces dernières années, enfin, depuis l'élection de Biden, je suis pas en train de me dévoiler comme un absolu pro-Biden, mais depuis quelques années, ne serait-ce qu'avec l'émergence de Bernie, et aussi on a le mot socialisme qui n'est plus un gros mot, un tabou aux États-Unis. Est-ce que vous avez un avis sur la question?
J'ai pas un avis super développé là-dessus. On avait assisté ensemble en plus à une conférence sur la gauche le socialisme américain, la gauche américaine et les
Sylvie
Afro-américains.
Laurent et Audrey Célestine.
Et Audrey Célestine, c'était super intéressant. Ouais. Mais honnêtement, à part ça, je crois pas avoir un avis ultra développé. J'aimerais bien que dans le pays qui justement a mis le plus sur un piédestal, on va dire, le libéralisme, à la fois économique et social, ce serait bien que le socialisme ait réellement une chance.
Tu parles de libéralisme ou de libéralisme?
Je parle de libéralisme au sens français du terme, et non pas au sens américain du terme, qui se rapproche du progressisme, on va dire. Donc je disais juste que voilà, dans un pays comme les States, ultra libéral, ultra capitaliste, tout ce que vous voulez, la fenêtre d'Overton, vous savez, la fenêtre, on va dire, d'action du socialisme, ça a dû durer peut-être 5 ans dans les années 70 ou je sais plus quoi, enfin, tu vois ce que je veux dire.
2 ans dans les années 20, tu vois,
voilà,
vraiment.
C'est ça. C'était plus court que certaines carrières dans le rap français. Donc si le socialisme pouvait avoir a real shot, avoir à nouveau. C'est ce que je veux dire, tu vois. S'il pouvait avoir une seconde chance et une chance sérieuse pour une fois, ce serait super cool et ce serait super intéressant à regarder, je trouve.
C'est vrai que c'est complètement. Enfin, pas complètement, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement décorrélé de la race, le socialisme, comme ils le voient aux États-Unis, parce que du coup, maintenant, c'est vraiment Bernie Sanders qui le porte le plus en tant que figure publique. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément. J'ai l'impression qu'il y a même plus de noirs conservateurs que de noirs socialistes.
Alors, il a évolué là-dessus, si tu te rappelles, dans la conférence.
Il a évolué là-dessus, on va dire.
Ouais. Il s'est fait éduquer. Genre, il a dit OK, éduquez-moi. Et il a pris ça en compte ensuite dans son programme. Mais bon, on n'y est pas.
Après, il y a No Name.
Oui, d'accord. C'est la fin de cette épisode.
Non, mais attends, elle fait quand même vachement de taf d'éducation et tout sur Internet, No Name. Et puis elle a ouvert en plus justement un book club où elle fait lire des livres socialistes, enfin socialistes communistes et de penseurs. Et elle a son truc aussi où elle distribue des repas. Enfin, elle reprend en fait quelques principes du Black Panther Party, quoi.
Et c'était une excellente rappeuse, franchement, à l'époque.
Et mais elle fait toujours des. Oui, mais bon.
Elle sort encore des sons.
Ouais, elle a sorti un son il n'y a pas longtemps.
Si c'est pas du spoken word, j'écouterai.
mais voilà. Et du coup, c'est vrai que bon, c'est une figure, c'est une célébrité, c'est une figure, c'est pas une figure politique et tout. Mais je me dis. Il y a la jeunesse aussi, la génération. Bon, il y a aussi des personnes d'extrême droite dans la nouvelle génération qui arrivent, mais il y a aussi pas mal, notamment grâce aux réseaux sociaux, de pensées socialistes radicales qui se diffusent aux États-Unis plus qu'à une autre époque.
Mais t'as dit socialiste radical, je me sens pas bien avec ça, hein, que ce soit à gauche ou à droite, je sais pas trop. Mais.
Est-ce que t'as une punchline de fin ?
Non, j'ai pas vraiment de punchline de fin, mais j'avais envie, pour finir, de un peu réfléchir sur ce que ça représente que ce film soit récompensé par l'Académie, en fait.
C'est ce qu'on n'a pas abordé, mais maintenant c'est devenu Disneyland, hein, à Hollywood.
Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est les frères Lucas, en interview, ils ont expliqué que quand le projet se monte, ils ont avec eux, par exemple, Ryan Coogler qui va rejoindre le projet juste après Black Panther, donc c'est le réalisateur le plus chaud du game. Ils avaient la moitié du financement, ils avaient Ryan Coogler, ils avaient Lucky Stanfield, ils avaient Daniel Kaluuya. Et malgré ça, le White Man n'était pas chaud pour The White Man was not ready. Il ne voulait pas produire le film. Parce que, voilà. Et donc on leur demande, mais comment ça s'est fait ? Comment vous avez réussi à faire produire ce film sans diluer votre message, en parlant d'un truc assez controversé de l'histoire américaine. Et ils disent, politique de diversité chez Warner Bros, il y avait des cadres noirs. Si vous arrivez face à une équipe de blancs et que vous leur dites « Bonjour, on veut faire un film sur les Black Panthers, notamment du point de vue de Fred Hampton », ils ne comprennent pas. Mmh. Et donc, les frères Lucas expliquent comment ils négocient, comment ils expliquent aux blancs. Et un truc qui m'a fait marrer, c'est comment vous faites pour expliquer qui est Fred Hampton en deux mots à des blancs. Vous leur dites que Fred Hampton, c'est l'équivalent du Velvet Underground, donc le groupe de rock, mais pour le mouvement des droits civiques. Et ils font « Ah ouais, c'est intéressant, ah ouais, ok, d'accord, on va, we're gonna give it a shot », tu vois.
Et donc, j'ai lu aussi un article, une interview de Daniel Kaluuya qui dit que dans les studios, quand il a fallu présenter le film devant les financiers, il leur a fait le « I am a revolutionary ». Et que les mecs, ils étaient comme ça, genre c'est trop bien. Donc écoute,
c'est un sacré acteur, franchement. Daniel Kaluuya,
franchement, chapeau. Il est bien dans tout, hein. Même dans des films un peu genre un peu nuls. Je sais pas si vous avez vu Widows.
Non,
le truc avec Viola Davis où en gros des meufs font un casse. Bref, il a le rôle du méchant. Tu sais, je sais pas si vous avez pas vu cette scène là où il regarde un mec qui lui dit vas-y rap et il le regarde comme ça pendant qu'il rappe. Vous avez pas vu, mais c'est un mème et tout parce qu'il a l'air trop méchant.
C'est le mème où il lui met un coup de pression là.
Puis après le gars il rappe et il rappe trop mal et l'autre il bouge pas, il est comme ça. Enfin non, c'est génial. Et c'est un super super acteur, quoi.
Bon. Ben, j'espère qu'on vous a donné envie de voir le film. Un truc qui est dommage, c'est que le film soit pas sorti sur les salles, mais il est disponible.
Il n'y a pas de salle, frérot.
Voilà,
Canal+.
Canal+, il est sorti sur Canal+, il y a quelques jours, donc n'hésitez pas. Ça dure 2 heures, c'est très bien. Je pense qu'on recommande tous assez vivement le
Prenez
film.
Prenez des scénaristes femmes, s'il vous plaît, mais
aussi,
sinon on recommande.
Aussi. Et voilà, c'est tout pour moi.
Ouais, et puis, si vous devez choisir entre celui-là et Black Klansman, franchement, choisissez Judas and the Black Messiah.
Yes.
On a fini.
On a fini, Mélanie. Tu...
Cool. C'est moi qui conclue l'épisode aujourd'hui. Ouais. C'est moi qui ai le plaisir d'ajouter ces derniers mots. C'était l'épisode du Chip. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir regardés également. Puisqu'encore une fois, je le rappelle, à toutes fins utiles, nous sommes également disponibles sur YouTube. Vous pouvez cliquer et voir nos magnifiques minois pendant une heure parler de choses très intéressantes telles que les noirs. Et c'est tout. vous pouvez nous retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast, toutes les applis de podcast, podcast addict, vous connaissez podcast addict,
Pocket Cast,
tout ce que vous voulez, Podcast Nation, Apple Podcast évidemment. L'idée c'est d'y aller et de nous laisser des revues positives. L'idée c'est de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Rien ne change à part Freezer, c'est-à-dire @lechippodcast sur Instagram et Twitter. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part merci au studio Majorel, merci à Adrien pour la réalisation de cet épisode qui va également lui donner beaucoup de fil à retordre, on s'en doute. Prenez soin de vous, on revient dans une semaine.
Une semaine.
Nouvelle temporalité pour le chip.
Ouais.
Prenez soin de vous et des gros bisous.
Bisous.
À très vite.
Hey folks, I'm Marc Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.